Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Les déviations racontent l'histoire de celles et ceux qui ont changé de vie. Notre média revendique une indépendance totale. Mais pour continuer à exister, continuer à diffuser des témoignages, des conseils d'experts et d'organiser des rencontres, nous avons choisi de soumettre notre podcast à une ou deux plages publicitaires de 30 secondes. C'est la condition pour que vous puissiez écouter notre média gratuitement et nous sommes sûrs que vous nous comprenez. Tout de suite, un nouveau témoignage, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
À force d'être décrit comme une personne radicalisée, dangereuse, renfermée sur elle-même, toxique, enfin tout ce que j'ai pu entendre pendant toutes ces années, ben on finit par s'identifier au personnage qu'on fait de vous. On finit même par y croire. Et donc on perd tout son amour-propre, on perd sa détermination, son envie d'avancer, tout ça. Donc on se met plein de barrières psychologiques qui font que il est très difficile de se battre pour reconstruire sa vie ou pour faire ce qu'on a envie de faire.
Mourad Benchelali n'a pas changé de vie. C'est sa vie qui a changé. Un jour, son grand frère, en 2001, le pousse à partir en Afghanistan. C'est le début d'un piège, d'une descente aux enfers qui le conduira jusqu'à Guantanamo. Une descente hors norme, un destin qu'il a aujourd'hui accepté, puis transformé. Les épreuves que Mourad a traversées font aujourd'hui sa force. Nous l'avons retrouvé sur le parking d'un collège de Seine-et-Marne, à Savigny-le-Temple, où il était venu parler à des élèves de son parcours. Après une journée fatigante, Mourad nous a conduits à son hôtel pour dérouler une nouvelle fois le fil de son histoire. Il nous raconte comment, pour survivre, un être humain est toujours appelé à se réinventer.
Je m'appelle Mourad Benchelali, je suis là dans la banlieue de Lyon, au Minguette, quartier dans lequel j'ai toujours vécu, je suis jamais, même quasiment jamais sorti. Alors pour bien comprendre aussi cette histoire, il faut juste rappeler le contexte dans lequel ça se passe. On est avant le 11 septembre, à l'instigation de mon grand frère. Je pars en Afghanistan, lui-même y a été, il est revenu, il n'a pas du tout été embêté ni par les autorités, il n'a pas l'air non plus traumatisé. Et puis il en parle quand bien. Il considère de son point de vue qu'aller en Afghanistan pour la religion, c'est bien. Et puis surtout, face à lui, moi, je n'ai jamais voyagé, je ne suis jamais sorti de mon quartier. Ce grand frère a fait le tour du monde, c'est un grand voyageur. Je l'admire, j'ai beaucoup de... On est intime, on a une relation très forte. Donc il y a une relation de confiance, il y a plein de choses qui font que quand il me propose l'Afghanistan, le pire, c'est que je ne vois pas le problème en fait. Enfin, je ne vois pas le mal. Je suis à des années-lumière d'imaginer ce qui va se passer par la suite. Donc je pars comme un gamin qui part à l'aventure. Alors bien sûr qu'avec le recul, on a du mal à le comprendre, mais parce qu'on a oublié aussi ce contexte-là. Moi, je viens pour découvrir ce pays. Et je viens pour vivre une aventure, parce que l'Afghanistan, c'est un pays magnifique. Parce que c'est la première fois de ma vie que je voyage. Parce que j'ai envie de me faire des souvenirs, d'avoir une histoire à raconter, de pouvoir même éventuellement rentrer au quartier et me la raconter en disant « moi j'ai été dans ce pays qui fascinait tout le monde à l'époque ». Mon frère il m'a envoyé en Afghanistan, mais lui il n'est pas retourné, donc il est resté à Lyon. Et puis c'est en arrivant sur place que ce que j'avais imaginé être des vacances ou une aventure va devenir un entraînement militaire. Et j'ai même pas le temps de comprendre ce qui se passe, parce qu'au bout de 3 jours à peine, dès mon arrivée, je me retrouve dans un camp à Kandahar, donc dans le sud de l'Afghanistan, avec un entraînement qui m'a imposé de 60 jours, très complet, un entraînement physique, un entraîneur au maniement des armes, aux explosifs. C'est-à-dire que c'est un entraînement qui va basculer d'un entraînement militaire à un entraînement terroriste. Très rapidement, je fais la rencontre de combattants étrangers qui, eux, considèrent que, bah, que l'Afghanistan, c'est pas un pays, c'est pas une destination touristique, c'est avant tout un endroit dans lequel des jeunes s'entraînent pour la religion. Enfin, eux expliquent que c'est une obligation religieuse et que ça peut servir d'une manière ou d'une autre l'islam et que ça doit être imposé à tous les jeunes. On nous explique que c'est l'obligation, que c'est un entraînement de base qui s'appelle Ta'sisi, la base en arabe. C'est très complet, en fait, c'est une espèce de cursus. Donc, c'est très organisé, en fait. Beaucoup de jeunes ne veulent pas le faire pour plein de raisons. Et donc, ils l'imposent aussi pour ces raisons-là, pour obliger tous les jeunes à le faire. Et franchement, il y a tous les profils. Il y a des jeunes comme moi qui, pour des raisons, chacun a ses raisons, mais n'ont pas envie de faire cet entraînement. Ils peuvent ne pas y voir l'intérêt, ou par paresse, ou alors par peur aussi. Parce qu'il y a les conséquences de cet entraînement. On se dit, ben, si on apprend à s'entraîner, c'est que logiquement, on peut nous envoyer au front. En tout cas, qu'on peut se servir de ce qu'on va apprendre. Donc, il vaut mieux ne pas apprendre. Au moins, ça permet de ne pas se faire ensuite instrumentaliser. C'est un peu la posture qu'on avait, nous aussi. Mais on comprend de toute façon que la question ne se pose pas, qu'il n'y a pas le choix. Donc oui, il y a plein de jeunes comme nous. Et puis, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui, eux, au contraire, sont très motivés par cet entraînement militaire. Ils ont leurs raisons. Ils considèrent que pour des raisons religieuses, c'est bien. Et certains disent qu'ils veulent défendre l'État islamique des talibans parce qu'ils veulent s'y installer. D'autres trouvent le prétexte de cet entraînement pour aller faire la guerre ailleurs. Il y avait par exemple des Bosniaques ou des Tchétchènes qui voulaient retourner dans leur pays pour combattre là-bas. Donc il y avait vraiment tous les profils. Il y a des francophones, je dirais plutôt que des Français, des francophones, c'est-à-dire qu'il y a des Anglais qui parlent bien le français, il y a des Algériens surtout, parce que la majorité des Algériens parlent très bien le français. Physiquement c'est difficile, il fait très chaud, on est conditionné, on mange très peu, on dort très peu. C'est dangereux, parce qu'on utilise de vraies munitions, il y a des explosions, il y a des gens qui se blessent. Et puis surtout, il y a l'après. On pense à l'après. Parce qu'on se dit, voilà, on a des gens qui visiblement investissent du temps et de l'argent. C'est pas sans raison. Si on nous apprend à faire ça, c'est que logiquement, on peut nous demander potentiellement d'aller combattre je ne sais qui. Ou alors, même pire, parce que c'est un entraînement aussi terroriste. Donc on s'imagine le pire, en fait. Donc on est terrorisé parce qu'on se dit... on a peur des conséquences, en fait. Et moi, ce que j'ai à l'esprit, c'est que j'ai bien compris à ce moment-là, moi qui n'étais pas violent, qui avait quitté mon quartier en partant comme ça à l'aventure, qui en même pas une semaine s'est retrouvé les armes à la main, je me dis que par les mêmes conditions, je peux me retrouver être amené à faire pire que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être engagé, d'être volontaire pour se retrouver à faire des choses graves, qu'il suffit simplement de se faire embrigader par d'autres personnes qui, eux, ont d'autres ambitions à votre place. Donc j'ai ça à l'esprit et ça me fait peur. Bah, j'essaie surtout de survivre à cet entraînement en me disant, bon, bah, si c'est qu'un entraînement, c'est pas grave, je vais le faire et puis quand ce sera terminé, j'entrerai à la maison. C'est ce que je vais faire, d'ailleurs, ou tenter de faire, parce que à l'issue de cet entraînement, en fait, l'incroyable ironie de l'histoire, c'est qu'en sortant du camp, on est autour du 13 septembre 2001. Donc 2 jours avant, il y a eu les attaques à New York. J'entends à la radio qu'il y a un lien direct entre l'endroit où je suis et ces attaques. Que le commanditaire de ces attentats, c'est un imam que j'ai croisé dans ce camp d'entraînement, Oussama Ben Laden. C'est lui qui a commandité, organisé ces attentats. Enfin, qu'il y a un lien en tout cas entre ces attaques et l'endroit où je suis. Je me dis que s'il y a bien un endroit où il ne faut pas se trouver à ce moment-là, c'est bien celui-là. Et donc le piège se referme. Parce qu'il y a l'intervention américaine, parce que la frontière au Pakistan est fermée. Donc pour toutes ces raisons, ben, je suis coincé, je ne sais plus comment rentrer. Franchement, ça me paraît presque irréel, en fait. Je suis comme dans un film. Alors je suis l'héros de l'histoire, même si je ne me sens pas héroïque. Mais ça me paraît tellement invraisemblable que j'y crois à moitié, en fait, parce que c'est trop gros, c'est énorme. Je me retrouve au milieu de cette grande histoire. Moi, Mourad, de mon quartier des Minguettes, personne ne me connaissait, puis je me retrouve avec des personnes qui présentent l'attention du monde entier, et je suis au milieu de tout ça. Il y a l'intervention américaine, c'est extraordinaire ce qui se passe. Il y a des bombardements de partout, il y a des milliers de morts, enfin, je suis au milieu d'une guerre. Alors, les talibans sont partis, se sont enfuis. Donc c'est la survie, la frontière au Pakistan est fermée et le seul moyen de rejoindre le Pakistan c'est de passer par les montagnes. Le problème, c'est qu'il faut grimper, qu'il y a l'hiver qui avance, qui arrive en tout cas. Puis il y a les bombardements aussi qui continuent aussi dans ces montagnes, parce qu'il y a des combattants qui ont décidé de s'y retrancher pour en découdre avec les Afghans, par exemple. Il y a Osama Ben Laden, d'ailleurs, aussi, qui s'y cache, paraît-il. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est la survie dans ces montagnes. Ça va durer plusieurs mois. Mais par miracle, je survis. Hein. Et je rejoins un village au Pakistan là, en décembre 2001. Je suis hébergé par des villageois et je pense que le cauchemar est terminé. Je suis dans une euphorie. Je me dis, ça y est, je vais pouvoir rentrer chez moi. Je suis hébergé par ces villageois qui sont très gentils avec moi. Et puis, c'est là que je me retrouve dans une grande pièce, entassée avec plein d'autres villageois dans la même situation que la mienne. Et c'est là que je suis capturé par ces villageois et qui me disent que je vais être livré à l'armée américaine. Donc je passe à peu près un mois de prison dans une caserne militaire au Pakistan et au bout d'un mois, je suis livré à l'armée américaine. Alors on apprendra plus tard qu'il touchait une prime pour la capture de toutes les personnes qu'il considérait comme susceptibles d'intéresser les Américains. Il disait qu'il touchait 5 000 $ de prime par personne capturée. Voilà. Ce qui est une grosse somme, a priori, pour un militaire pakistanais. Donc on se retrouve à la main de la CIA d'abord, et puis ensuite envoyé à Kandahar par avion. Quand on est capturé, les Américains nous renvoient en Afghanistan, ce pays qu'on avait essayé de fuir pendant plusieurs mois. Donc je suis incarcéré dans un camp, au milieu de l'aéroport de Kandahar, qui a été aménagé par les Américains, qui ont récupéré la ville, qui ont rasé les camps, et qui ont construit une prison. Donc je vais passer à peu près un mois, je passe un mois dans cette prison, et au bout d'un mois, je suis transféré, je ne sais pas où encore, par avion, et puis au bout de 24 heures de vol, je débarque à Cuba, dans une base militaire américaine, dans un camp qui s'appelle X-Ray. C'est des enclos grillagés en extérieur. C'est pas comme une prison classique, hein. On est coupé du monde, il n'y a pas de parloir, pas de possibilité d'appeler sa famille, de téléphoner, de se promener, de lire. On est vraiment coupé du monde. Et ça va durer plusieurs mois dans ce camp. Et au bout de 4 mois, à peu près, je suis transféré dans un camp, le camp Delta, où je vais y passer 2 ans et demi. Donc le camp Delta, c'est une prison qui vient de se construire, qui est toute neuve. Les conditions d'hygiène sont un peu meilleures parce que là, il y a une toilette, un robinet, contrairement à X-Ray. Mais la grande nouveauté, c'est les interrogatoires. C'est-à-dire qu'on est interrogé par la CIA, le FBI, les services de renseignement européens. Et la plupart du temps, les interrogatoires se passent bien, sauf avec la CIA. La CIA considère qu'il faut faire souffrir les détenus pour obtenir des informations qu'eux considèrent ne pas pouvoir obtenir autrement, quoi. Donc, c'est des techniques qu'ils ont élaborées avec des psychologues, on le sait aujourd'hui, pour nous faire souffrir. Donc, les interrogatoires se passent mal. Et c'est le seul moment, d'ailleurs, où on sort de la détention, on sort de la cellule. Sinon, à part ça, on est enfermé 24 heures sur 24 dans cette cellule. Et ça va durer 2 ans et demi. Et au bout de 2 ans et demi, j'apprends que je rentre en France. J'ai un gradé militaire américain qui me dit que je vais rentrer en France, que je suis transféré. Je me retrouve dans un avion, je retrouve mon ami avec qui j'avais voyagé, que j'avais pas vu depuis plusieurs mois. Je suis dans l'euphorie, c'est comme dans un rêve, hein. J'imagine que je vais descendre de l'avion, que je vais serrer mes parents dans les bras et qu'on va tous rentrer à la maison. Mais à la descente de l'avion, je me retrouve non pas dans un aéroport civil, mais dans une base militaire française. Et les personnes qui m'attendent en bas de l'avion ne sont pas ma famille, mais des policiers. Je me retrouve en garde à vue. Et à l'issue de cette garde à vue, j'apprends que je vais être incarcéré de nouveau, que Guantanamo ne compte pas, parce que Guantanamo n'existe pas. Et que tout ce que j'ai pu raconter par rapport à mon séjour et au parcours que j'ai eu, bah finalement se retourne contre moi, parce que c'est exactement ce qu'on me reproche. Que les enquêteurs de la DST considèrent que mon parcours dans ce camp d'entraînement pose problème, ne serait-ce que par son contenu, mais surtout par rapport aux intentions que ces personnes me prêtent. parce que ils disent que le fait que je parte en Afghanistan pour l'aventure, eux, ils n'y croient pas. Ils disent que si je pars en Afghanistan, ça a été forcément pour revenir en France dans l'idée de éventuellement de faire des attentats et que c'était prévu à l'avance. Donc c'est pour ces raisons-là que je suis incarcéré, mis en examen pour association de malfaiteurs. Et pendant cette garde à vue, je reçois pour la première fois depuis plusieurs mois des nouvelles de ma famille. J'apprends que mon grand frère Hakim, celui qui m'a envoyé en Afghanistan pendant mon absence lorsque j'étais à Guantanamo, a essayé d'aller faire le djihad. Il a essayé de partir en Tchétchénie. Il voulait faire le djihad là-bas. Enfin, il est parti en Géorgie. Il passe quelques semaines là-bas. Et puis à son retour, il est arrêté par la police. Qui lui reproche évidemment de m'avoir envoyé, d'avoir organisé mon voyage, d'être parti lui-même avant. Et surtout d'avoir voulu aller combattre en Tchétchénie. Mais les accusations vont être plus graves, puisque les enquêteurs le soupçonnent d'avoir voulu préparer une attaque pour la cause tchétchène contre les intérêts russes en France. Et par rapport à la gravité des faits qui lui ont été reprochés, le reste de ma famille est impliqué, parce que la justice a considéré qu'ils étaient complices, en fait, dans cette entreprise terroriste. Et donc j'apprends en garde à vue que je retourne en prison, mais que j'ai les trois quarts quasiment des membres de ma famille qui sont aussi incarcérés. Donc mon grand frère, le deuxième, est aussi incarcéré, parce que la justice considère qu'il a été complice, ne serait-ce que par passivité. Mon père, parce que c'est un imam, et parce que la police, les enquêteurs se posent la question du fait qu'il a peut-être été l'idéologue de la famille par rapport au djihad. Et puis ma mère, parce que la justice considère qu'elle a été complice lorsque, par exemple, elle a envoyé de l'argent à mon frère lorsqu'il était en Géorgie. C'était une manière de financer le terrorisme, de leur point de vue. Et donc, tous ces gens-là sont tous en prison. Et c'est comme ça que je suis incarcéré à Fleury-Mérogis pour association de malfaiteurs en détention provisoire avec ma mère, dans la même prison que ma mère. Et on va tous rester en prison, toute la famille, pendant 2 ans. Physiquement, c'est différent. Bon, en France, il n'y a plus de torture. Et puis, j'ai un statut, je peux me défendre avec des avocats, j'ai une justice. Mais en même temps, je suis toujours en détention provisoire. Donc, cette incertitude de l'avenir que j'avais connue à Guantanamo, elle se poursuit. Et puis, surtout, psychologiquement, c'est pire parce que je suis incarcéré avec ma famille, avec ma mère, surtout. C'est-à-dire qu'elle est incarcérée dans la prison des femmes, que je demande à pouvoir la voir, parce que je ne l'ai pas vue, ça fait plusieurs années, en parloir interne, mais le juge d'instruction refuse. Même si c'est des affaires différentes, et que je suis très inquiet pour elle, et que je culpabilise aussi, parce que de la voir en prison, incarcérée, pour moi, c'est un calvaire. Et puis, j'éprouve une part de responsabilité. Je pense aussi au fait que je suis aussi en partie responsable de son incarcération, que si je n'étais pas parti en Afghanistan, ben, je ne l'aurais pas fait souffrir déjà, d'une part, et d'autre part, ça aurait été peut-être plus compliqué de trouver les raisons de l'incarcérer. Alors moi, je suis convaincu depuis le début que mes parents ne sont pas responsables de mon départ en Afghanistan, que s'ils ont un avoir. D'abord, moi, je n'ai jamais été éduqué dans le djihad ou dans la violence. Que s'ils avaient été au courant, ils m'auraient empêché de partir parce qu'ils n'étaient pas au courant, mes parents. Mon grand frère m'avait conseillé de leur mentir. J'avais dit à mes parents, alors ça peut faire sourire aujourd'hui, mais de dire à mes parents que je partais en Syrie. Pourquoi la Syrie? Parce que mon frère avait été dans une université à Damas quelques années auparavant. Il me dit, bah, tu dis à maman que tu vas où j'ai été à Damas, comme ça elle ne s'inquiète pas trop, elle ne pose pas trop de questions, etc. Donc j'ai menti à mes parents. Donc je considère que mes parents, ils ont plus été victimes du terrorisme que des personnes susceptibles d'en être les adeptes. Mon frère, je n'en ai pas voulu sur l'Afghanistan en fait, malgré tout, parce que d'abord je préfère assumer mes responsabilités, je préfère vivre comme ça, c'est plus facile et c'est plus honnête avec moi-même. Parce que quand il me propose l'Afghanistan, il ne fait pas ça contraire, il fait ça parce qu'il pense que c'est bien. Je pense même qu'il se pense investi d'une mission, que pour lui, m'envoyer en Afghanistan, d'une certaine manière, c'était me remettre sur le droit chemin. Parce qu'à l'époque, il considérait que je n'étais pas un bon croyant et qu'aller en Afghanistan, ça me ferait du bien. C'était son point de vue. Et puis lui-même, et je pense que c'est vrai, était à des années-lumière de penser, d'imaginer le 11 septembre ou l'intervention américaine ou des choses qui se sont passées après. Donc je pense que lui, ses motivations, elles étaient principalement religieuses, elles n'étaient pas encore djihadistes en tout cas. Après, là où c'était plus compliqué, c'était le fait que lui ne regrettait pas qu'il se radicalisait davantage, qu'il tenait des déclarations de nature à aggraver les choses, notamment par rapport à mes parents quand il était à son procès, par exemple. Enfin, en tout cas, qu'on n'avait pas tiré visiblement les mêmes conclusions de tout ce qui s'était passé. Et donc, à cause de ça, on s'est séparés pendant des années. Il a purgé sa peine, il n'a pas fait de conneries, il n'a pas récidivé, et puis il a aussi changé sur certaines idées. Donc, je pense que ce ne sera jamais plus comme avant, mais voilà, ça reste mon grand frère, quoi qu'il arrive. Enfin, je pense que l'incrimination, c'est surtout mon parcours. Voilà, le fait d'avoir croisé les mauvaises personnes. D'autant plus que je vais être relaxé en deuxième instance. Donc le juge, s'il nous a relaxé, c'est qu'il a aussi trouvé les moyens de nous relaxer. Ou en tout cas, les raisons. Je n'ai pas été poursuivi par les Américains. Que la France a instruit une plainte pour moi, pour séquestration, détention arbitraire et actes de torture contre les Américains, qui continuent de se poursuivre. Il y a eu un non-lieu, on a fait appel, on s'est pourvu en cassation, donc c'est encore en instruction. Toujours est-il que la plainte, elle s'est toujours bien nourrie en fait. Depuis 2005, les juges d'instruction ont toujours ajouté des demandes d'actes, ils ont désigné de nouveaux responsables. Et c'est la nouvelle juge d'instruction, la dernière, qui est arrivée et qui a considéré qu'on ne pouvait pas poursuivre les Américains, en tout cas qu'on ne pouvait pas poursuivre des responsables à titre individuel, parce qu'eux intervenaient au nom de l'État américain, et que les poursuivre, c'était poursuivre l'État américain dans sa globalité, que ça n'avait aucun sens. Donc le dernier juge d'instruction a fait tout pour éteindre cette plainte. Voilà, c'est pas encore fini, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Je suis sorti à début 2007. J'ai eu un contrôle judiciaire dans un premier temps qui s'est terminé très rapidement. J'ai pu rentrer à Vénissieux. Là où c'est plus compliqué, c'est par rapport au regard des autres. Je suis sorti malade, en fait. J'avais des problèmes psychologiques, j'avais des traumatismes, je faisais des cauchemars, j'avais des trous de mémoire, j'avais des flashbacks. À force d'être décrit comme une personne radicalisée, dangereuse, renfermée sur elle-même, toxique, enfin, tout ce que j'ai pu entendre pendant toutes ces années, ben on finit par s'identifier au personnage qu'on fait de vous. On finit même par y croire. Hein. Et donc, on perd tout son amour-propre, on perd sa détermination, son envie d'avancer, tout ça. Donc, on se met plein de barrières psychologiques qui font que il est très difficile de se battre pour reconstruire sa vie ou pour faire ce qu'on a envie de faire. Je traversais une grosse dépression. J'ai mes parents qui sont jugés et condamnés et qui sont victimes de la double peine. Donc, ils sont expulsés vers l'Algérie. Ils ont une interdiction définitive des territoires français. Donc, je suis très triste pour eux, surtout pour ma mère, qui avait vécu la plus grande partie de sa vie en France. Donc, j'ai la famille qui est complètement éclatée. Et puis, j'ai des difficultés à reconstruire ma vie parce que, pour moi, la réinsertion, elle passe par le travail et j'ai du mal à trouver un job à cause de ce parcours. Alors, moi, je travaillais dans le social avant mon départ. J'étais éducateur et tout, mais c'était plus possible de le faire. J'intervenais pour les bailleurs sociaux d'un quartier pas loin de chez moi. Et ma mission, c'était un peu d'essayer d'améliorer le cadre de vie des habitants. Donc, par exemple, quand il y avait des conflits de voisinage, on essayait d'intervenir. Enfin, on faisait de la médiation. Quand il y avait les jeunes qui squattaient dans les allées, on essayait d'aller leur parler, de les raisonner. Enfin, c'était un peu ça l'idée. C'était de faire un peu le médiateur, un peu le grand frère dans le quartier. Et ça me plaisait, j'avais fait ça depuis 2 ans. Donc, quand je suis sorti de prison, je voulais reprendre le social. J'aimais bien faire ça. Mais je considérais à tort que c'était pas possible. Parce que je me disais, c'est pas la peine avec le parcours que t'as. Mourad, tu pourras pas refaire du social. Donc, je me suis retranché dans le bâtiment. C'était pas ce qui me plaisait le plus. Et surtout, je me disais, dans le bâtiment, on n'est pas trop regardant sur les parcours des gens. Pour ça que j'ai choisi Carleur. Je me suis dit, bon, c'est un métier qui, paraît-il, est bien payé. En tout cas, il y a du boulot. C'est en demande. Et c'était vrai. Donc, quand je fais cette formation de Carleur à l'AFPA, C'est vrai que je trouve du boulot vite fait. Parce que je fais la formation et puis tout de suite, j'ai un patron qui me propose d'être apprenti dans son entreprise. Au bout de 2 ans, je suis viré par le patron qui m'avait reconnu, enfin en tout cas qui considérait qu'il ne pouvait pas me garder à cause de mon parcours. Bon, le patron met quand même 2 ans pour me reconnaître. Et puis après, quand je suis viré, je lui dis c'est pas grave parce que j'ai appris le métier. Donc je vais être artisan. Et c'est comme ça que je suis devenu mon propre patron en tant que carreleur. Et ça marchait bien. C'est vraiment la partie de ma vie où j'ai commencé à bien me reconstruire en fait. C'est beaucoup de boulot. On passe beaucoup de temps, on fait de longs horaires, et puis il faut gérer aussi la partie administrative et tout, mais ça me plaisait. J'ai trouvé ça très valorisant. Les métiers manuels, justement, on construit quelque chose. Donc par définition, on se dit, voilà, je produis quelque chose de réel. Quand je faisais une salle de bain, j'étais fier de ce travail, du travail que je faisais. Je me disais, c'est du concret. Voilà, j'ai fait une jolie salle de bain pour un client, il est content, et moi aussi. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. C'est à ce moment-là où j'ai retrouvé de l'amour propre aussi. Et puis ensuite, je suis revenu au social, parce que c'est ce qui me plaisait. Donc j'ai fait une formation pour être éducateur dans l'insertion professionnelle. Et puis j'apprenais à des jeunes, à travers des entreprises d'insertion, mon métier de carreleur. Donc c'est là aussi où j'ai remis le pied dans le social. Et ça me plaisait. Et puis après, j'ai fait une formation d'éducateur spécialisé. Et puis aujourd'hui, je suis médiateur dans une entreprise où j'accompagne d'anciens détenus dans leur réinsertion. Donc je fais aux autres ce que j'aurais aimé qu'on me fasse quand je suis sorti de prison, en fait. Parce que les détenus que j'accompagne, ce sont des détenus qui ont eu des parcours djihadistes, exclusivement. L'employeur est directement l'administration pénitentiaire. D'ailleurs, l'administration pénitentiaire, c'est le ministère de la Justice. Et malgré mon parcours, ils me font confiance. Enfin, je trouve ça agréable, c'est une confiance et je suis très reconnaissant par rapport à cette confiance et j'essaie de ne pas la trahir. C'est la pénitentiaire qui a libéré des personnes, mais qui propose aux juges d'instruction d'imposer, ou en tout cas de conseiller à ces détenus qui ont été libérés d'avoir un suivi pendant plusieurs mois de réinsertion. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pallier ou d'être une alternative à la sortie sèche. Parce que la pénitentiaire considère que ça peut être dangereux de laisser sortir un ancien djihadiste sans aucun suivi, sans aucune aide. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont créé ce dispositif en disant ben, on va accompagner ces personnes dans leur réinsertion. Voilà. C'est pas facile parce que ce sont des personnes qui sortent souvent encore très radicalisées d'une part, et puis d'autre part aussi très traumatisées, ou en tout cas souvent avec des problèmes psychologiques. Donc ils ont du mal à, d'une part, à nous faire confiance, et d'autre part, à se faire confiance. Elles ont du mal aussi à se projeter dans l'avenir, à avoir confiance aux autres. Enfin, il y a plein de raisons complexes qui font que c'est difficile pour elles de se réinsérer. Je ne sais pas où ça va mener, et puis je ne sais pas d'ailleurs si ça va continuer. Après, c'est aussi le politique, les institutions publiques qui vont décider de si elles ont envie de continuer à faire à financer ce genre de dispositif. Donc je ne sais pas. Je sais pas si ça va continuer, mais en tout cas, moi, j'aime bien ce que je fais pour l'instant. Par rapport à ma vie sentimentale, la fille avec qui je sortais avant mon départ, quand je sors de prison, non seulement elle m'a abandonné, elle a reconstruit sa vie, elle s'est remariée. Et puis quand je suis en détention, j'ai 3/4 de mes copains qui assistent à son mariage. Donc c'est horrible ce que je suis en train de vivre. Et quand je sors de prison, elle est quasiment mariée avec un enfant. Et donc je pense que je me précipite à reconstruire ma vie aussi pour cette raison-là, un peu pour remplacer cet échec. J'ai pu rencontrer une femme, alors on ne s'est pas entendu, on s'est séparés rapidement, mais je ne pense pas que ce soit dû à mon parcours. Je pense qu'on était juste différents. J'ai eu un petit garçon avec elle, très rapidement. Mon petit garçon vit avec sa mère et je le vois aussi souvent que possible. Aujourd'hui, il a presque 13 ans, donc c'est un grand garçon. Donc ça a été possible et voilà. Je ne pense pas qu'à cause de mon parcours, ça a été plus difficile qu'un autre, en fait. Enfin, moi, ça ne m'a pas gêné. pour reconstruire ma vie de ce côté-là. Et mon enfant, mon petit garçon, c'est, pour moi, là, c'est une vraie revanche sur la vie, en fait. Parce qu'un petit garçon, c'est la meilleure chose que je pense qu'un père peut avoir. Et donner la vie, c'était d'une certaine manière aussi, je pense que c'est un cadeau qui m'a fait tout oublier, en fait. Tout ce que j'avais vécu, j'avais tout oublié quand j'ai eu mon petit garçon. C'est comme si j'avais plus, enfin, tout ce passé de souffrance, de tristesse, de traumatisme, presque disparaissait. C'était que du bonheur, justement, après. J'ai toujours fait en sorte que mon parcours ne soit pas un handicap pour lui. Ça, c'était une vraie inquiétude. J'ai dit, Mourad, il faut que tu fasses en sorte que ton parcours ne soit pas gênant pour lui, soit pas, voilà, qu'il puisse vivre avec. J'espère que j'y arrive. En tout cas, alors il a lu mon livre, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Enfin, je pense que c'est la première fois de sa vie où il a commencé vraiment à comprendre ce qui s'était passé. Je pense qu'il peut se dire aujourd'hui que son père a eu une erreur de parcours, mais qu'il essaie d'en faire quelque chose de bien, qu'il n'a pas à en avoir honte, que c'est comme ça, mais qu'aujourd'hui ça va mieux. Parce que je parle aussi de lui dans ce livre et tout ça. Donc de raconter ce parcours dans un livre, ça m'a fait du bien. Ça a d'abord été, dans un premier temps, comme une thérapie. Raconter ces souffrances, c'est beaucoup de souffrances surtout, hein. Ça m'a fait du bien, donc c'était personnel. Et puis d'autre part, j'ai trouvé que c'était un outil formidable pour les jeunes pour raconter ce parcours, parce qu'il est jamais, enfin, il est beaucoup mieux raconté forcément dans le livre, plus en détail, que je ne le ferai jamais à l'oral. C'est-à-dire que quand j'arrive à Fleury, par exemple, je rencontre des jeunes, plus jeunes que moi, en promenade, par exemple, qui me disent « Bah Mourad, on a vu dans la presse, dans les journaux et tout, ils ont parlé de toi, ils ont dit que tu étais un soldat, un moudjahid. » Il disait même le taliban français. Et pour nous, t'es un héros. Et quand on va sortir de prison, on aimerait faire le djihad comme toi. C'était le discours que j'entendais. Alors ça me gênait d'entendre ça. Je me rendais tout de suite compte que des jeunes s'identifiaient à mon histoire, mais pour les mauvaises raisons. Et donc je leur expliquais non, que j'avais pas, non seulement que j'étais pas parti en Afghanistan pour faire le djihad, mais que ce que eux pensaient du djihad en Afghanistan, c'était pas tout à fait la réalité. En Afghanistan, j'avais pas vu des gens qui défendaient l'orphelin, mais j'avais vu des gens qui expliquaient que les attentats suicides c'était bien. Des gens qui me disaient, Mourad, ce serait bien que tu poses une bombe en France et qu'elle soit tellement puissante qu'on l'entende d'ici. Donc c'est cette réalité que j'avais vue là-bas. Mais j'avais compris à cause de leur réaction que je devais faire quelque chose, que je pouvais pas rester silencieux par rapport à ce que j'avais vu. Et que raconter aux jeunes ce que j'avais vécu, cet envers du décor, justement, cette réalité de terrain, ça pouvait leur être utile. Au moins, pour moins idéaliser ce qu'eux avaient comme vision d'un pays comme l'Afghanistan. Donc, c'est pour ça que j'écris ce livre. Alors, je regrette qu'il n'ait pas eu le succès que j'espérais. Après, je peux comprendre que c'est une histoire qui peut ne pas intéresser, ou que de manière générale, on peut considérer qu'un témoignage sur Guantanamo n'est pas intéressant. Mais en tout cas, ça m'a permis, malgré tout, de faire quelques écoles. Voilà. C'est des profs qui lisent le bouquin et qui m'invitent dans leurs écoles, qui me disent, ben voilà, nous on pense que ton témoignage peut être utile pour nos élèves. Donc c'est presque eux qui m'invitent à le faire, ce travail de témoignage. Je suis intervenu devant des collégiens. Eux entendent pour la première fois mon témoignage. Donc, il faut que je le raconte comme si je le racontais pour la première fois. Donc, ça demande un effort. Mais en même temps, je me rends bien compte, après mon intervention, que ça a apporté beaucoup aux jeunes. Ils disent que ça leur a fait du bien, qu'ils ont appris des trucs, que c'est un témoignage qui sort du commun, que c'est une manière de parler de ces sujets d'une autre manière, en tout cas d'une manière qu'on trouve agréable. Donc, pour toutes ces raisons, je continue à considérer que c'est utile. Et c'est ce qui me donne de la force à continuer, quoi. Je pense que des personnes, comme elles se sont radicalisées, elles peuvent se déradicaliser. C'est-à-dire que quand on adhère à une idéologie, on peut aussi avoir le raisonnement inverse. Je veux dire, c'est humain, on peut changer d'avis. Tout le monde peut changer d'avis. Là où ça devient un problème, c'est qu'on dise qu'il y a une méthode pour faire changer d'avis les gens, qu'il y a une méthode justement de déradicalisation. C'est là que ça devient un problème. Comme s'il y avait une technique pour faire changer d'avis les gens, alors qu'il n'y a pas de technique. Chacun change d'avis que s'il a envie de changer d'avis, ou en tout cas, même si ça arrive, c'est par le fruit de son propre raisonnement, c'est pas grâce à une tierce personne. Et que c'est un état d'esprit. Et que tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de favoriser cet état d'esprit, de mettre les conditions pour essayer de faire en sorte que la personne ait cet état d'esprit. C'est un peu dans cette idée-là que je me suis engagé là, dans mon métier de médiateur. C'est-à-dire que j'essaie d'accompagner des gens dans leur, à trouver un job, un logement, ces choses-là, parce que je pense que tout ça, c'est de nature à les aider justement à prendre du recul sur ce qu'ils ont vécu. Ça, c'est pour moi la vraie déradicalisation. Mais jamais j'oserais dire qu'il y a une technique pour faire changer d'avis les gens. J'y crois pas. Les djihadistes se posent pas la question de s'il faut faire la morale. Ils la font quand ils font leur prosélytisme, ils essayent de convaincre. Donc nous, on peut essayer de convaincre aussi, mais dans le sens inverse. On peut essayer de convaincre aussi que le djihad n'est pas la solution, que le terrorisme n'est pas la solution. Donc il faut le faire. C'est-à-dire que souvent, par rapport à la radicalisation, on a essayé d'expliquer de manière générale pourquoi les gens se radicalisaient. Comme si à peu près tout le monde avait la même façon de se radicaliser et avait les mêmes raisons de se radicaliser. Enfin, il y a autant de raisons qu'il y a de personnes, en fait. Des explications sociales, politiques, religieuses, psychologiques, ça peut être assez souvent même un mélange de tout ça. Enfin, qu'il est quasiment impossible de savoir à l'avance les raisons pour lesquelles une personne se radicalise. D'ailleurs, moi-même, je l'ai vécu. Quand je reviens en France, j'allume ma télévision et je vois des débats à la télévision qui parlent de mon propre engagement. J'ai des gens qui parlent à ma place, qui disent « Voilà, Mourad, il est parti en Afghanistan pour telle ou telle raison. » Et ils étaient souvent tous à côté de la plaque. Ils avaient quasiment tous tort. Donc c'est bien la preuve qu'on ne peut pas expliquer à la place d'une personne. La seule façon de savoir pourquoi une personne s'est radicalisée, c'est de lui poser la question, hein, c'est tout.
Retrouvez le témoignage de Mourad Benchelali dans Le piège de l'aventure, un livre co-signé avec Antoine Audouard, disponible aux éditions Robert Laffont. C'était un épisode réalisé par Sidney Clazen, interview Ariel Koenig. Les déviations sont nées d'une idée originale de Laurence Velli. Merci à Lorraine Lott et Yann Renaud. Pour nous suivre et ne rien manquer de l'actualité de notre média, rendez-vous sur lesdéviations.fr, Instagram, Facebook et toutes nos plateformes d'écoute habituelles. Parlez-en autour de vous et dites-nous que vous nous aimez. À très vite pour une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.